culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.
Salut à toi, cher auditeur, chère auditrice, tu es au culte Espoir et c'est vraiment très très sympa d'être en ta compagnie. Aujourd'hui, j'ai avec moi Fanz et Amandine qui seront avec nous. Bonjour les filles.
Bonjour.
Comment ça va?
Très très contente d'être là.
Ah bah c'est super. Aujourd'hui, nous avons Olivier Rigaud. Bonjour.
Bonjour.
Comment tu vas?
Très bien, merci.
Rapproche-toi du micro.
Ok.
Olivier, on peut le dire, tu connais bien le plateau maintenant.
Oui. Hein?
Je dis ça parce que tu achèves donc aujourd'hui une série de 4 épisodes sur la Pâque. D'ailleurs, auditeur, auditrice, si tu n'as pas pu écouter les épisodes précédents, je t'invite vivement à y jeter un coup d'œil. Alors Olivier, tu tiens le coup, ça va?
Oui, ça va, on y arrive.
Ok. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui en quelques mots?
Eh bien, nous allons continuer à être les observateurs discrets de cette dernière soirée avant la mort du Christ et sa résurrection. Après avoir partagé lors du repas le pain et le vin, Jésus va donc se rendre au jardin de Gethsémané, où il va être arrêté, emprisonné et crucifié. Alors aujourd'hui, on va parler justement de cet amour divin qui s'est donné jusqu'au bout pour nous.
Ah ben merci. Observateur discret, j'aime bien, c'est très immersif comme ça. Eh bien alors, dans ce cas-là, que le Seigneur puisse t'inspirer et nous guider pendant ce temps de culte.
Amen.
Amandine, que veux-tu nous partager de ta semaine avec Dieu?
Bon, il y a quelques semaines, je me suis retrouvée dans une situation que personne, en tout cas à ma connaissance, aime vivre. Une amie à moi me propose de discuter et m'explique que je suis le sujet de critiques de collègues. Des remarques que j'ai faites qui n'ont pas bien été accueillies, qui ont blessé, des décisions que j'ai prises avec lesquelles ils ne sont pas d'accord et me voilà rempli de tristesse parce que malgré mes efforts pour faire bien, ma bonne volonté, cette volonté sincère de servir et d'honorer Dieu, je me plante parfois, je reste pécheresse imparfaite. Triste aussi de constater qu'au lieu de venir m'en parler, les critiques foisonnent sans me donner la possibilité de me rendre compte de mes erreurs et de pouvoir m'en excuser. Alors je rentre chez moi. Après cette discussion, reconnaissante que mon amie m'ait partagé l'état de la situation, même si elle m'est douloureuse, et je suis heureuse de retrouver mon chéri, Brian, avec qui nous allons échanger sur ces critiques que j'ai reçues. Nous allons pouvoir les analyser, les comprendre, voir ce sur quoi je dois en effet me repentir, m'excuser, voir aussi ce qui était juste dans ce que j'ai fait, et voir ce qu'il me reste à faire maintenant pour avancer. On va pouvoir prier ensemble et je vais demander pardon à Dieu et lui soumettre toutes les étapes qui vont suivre. Je vous avoue que j'ai pas bien dormi la nuit qui a suivi et au réveil, je me sentais super affligée. Et ce qui va suivre va tellement me faire du bien. Je vais avoir dans mon cœur une référence biblique qui me vient. Alors je vous avoue, quand je l'ai reçu, j'ai reçu le texte, mais je savais pas c'était quoi, je me rappelais plus. Donc j'ai pris ma Bible pour aller le lire et à ce moment-là, ce texte va me faire un bien fou. Dieu semble me dire de manière très directe qu'il m'aime, qu'il est avec moi, que je ne dois pas être découragée, que à la suite, je vais recevoir dans les minutes qui suivent donc des textos d'une de mes grandes sœurs et d'une membre de mon église qui toutes deux vont m'encourager, vont m'envoyer plein d'amour. Je vais pouvoir partager avec ma grande sœur ce que je vis. Elle va prier pour moi, intercéder pour les discussions que je vais avoir avec mes collègues. Et clairement, je pense que ma sœur et cette membre d'église ont été inspirées à ce moment-là pour m'écrire. Et donc, je décide de prendre la voiture et d'aller au travail dès le matin, alors que mes cours commencent l'après-midi. Je vous rappelle que je suis prof et j'ai vraiment la sensation que je dois y aller tout de suite. Et dans la voiture, pendant que je suis en train de conduire, tout d'un coup, j'ai cette image de Jésus qui lave les pieds de ses disciples. On en a parlé, il y a 3 cultes. Puis je le vois me laver mes pieds à moi. Et moi qui suis toute sale de mes erreurs, je le vois me rendre toute propre. et me dire qu'il a vu, qu'il m'a vu me repentir, qu'il prend tout sur lui, qu'il me décharge de mes fautes, qu'il m'aime et qu'il me rend justice. Bon, je vous avoue, c'était très fort de me rendre compte de ça, ça m'a fait un bien fou. Et le reste de ma journée va être une succession de discussions avec les bonnes personnes au bon moment. Je vais pouvoir m'excuser, les excuses vont être accueillies et acceptées. Et je sens que j'ai grandi grâce à cette pseudo-crise. J'ai appris des choses qui m'aideront à l'avenir à faire autrement. Alors sans Jésus, je n'aurais pas pu vivre ce que j'ai vécu là. Sans son combat pour les hommes, et donc pour moi, je n'aurais pas pu expérimenter l'humilité, son pardon. Je n'aurais pas pu avoir un doux petit aperçu de la victoire sur le péché, sur ce qui nous divise, sur ce qui nous décourage. Je sais que pas toute situation se résout comme j'ai pu le vivre là. D'ailleurs, la situation reste d'ailleurs pas toute simple. Mais cette expérience m'a confortée dans l'idée que je ne veux plus affronter aucune des situations de ma vie sans Jésus. Et toi ?
Kanza, quelle est la promesse du jour que tu voudrais nous partager ?
Alors, la promesse que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui se trouve dans le psaume 91 et c'est en fait le fil conducteur de ma réflexion pour les chroniques d'aujourd'hui. Alors, le verset 1 nous dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Cette phrase simple est la source de ma foi en Dieu. Demeurer en Dieu nous donne du repos, et ô combien indispensable pour ne pas sombrer. Un repos de qualité inégalable. Ce verset est très parlant, particulièrement aujourd'hui. Partout où nous tournons nos regards, il n'y a rien d'autre que souffrance après souffrance. Nous pouvons facilement être pris au piège de la peur dont on nous nourrit au quotidien. Ce verset me donne la paix, nous donne la paix intérieure, qui nous accompagne jour après jour, et la sérénité d'affronter n'importe quel défi. Et il nous rappelle qui a le contrôle de notre vie.
Amen.
Le chant que j'aimerais te partager aujourd'hui raconte l'événement du jardin de Gethsémané, épisode où Jésus traverse un moment extrêmement difficile. Seul, il ne peut compter sur ses disciples, ses plus proches amis. Jésus a peur. Il n'a pas vraiment envie de vivre cette horrible aventure car il sait qu'il va aller seul sur le chemin de la croix. Enfin, seul, comme tu l'as dit, Fanza, il repose auprès du Très-Haut. Un chemin où Dieu va manifester sa gloire par son Fils Jésus.
N'est-il point d'autre choix devant la coupe que celui de marcher sur cette route, ce chemin de douleur, de peine et de malheur? N'y a-t-il rien? Manifeste en moi la sainteté de ton pardon. Je m'abandonne entre tes mains, et puisque la vie t'appartient, qu'il en soit fait de moi selon les voies de ton amour divin. Combien j'ai vu ta grâce lorsque je demeurais devant ta face. Mais là, dans ce jardin, il ne reste plus rien que le fardeau de tous les maux. De ma souffrance, le sang de l'agonie et de l'absence. Voici venu mon heure, viens soulager mon cœur, mon Dieu, mon sort est en toi maintenant. Glorifie ton nom sur cette terre, manifeste en moi la sainteté. Que le monde voit briller en moi la gloire que ta grâce m'a donnée.
Sur le mont du Calvaire, ou plus précisément Golgotha, appelé aussi le lieu du crâne, était l'endroit où on emmenait les condamnés à mort. Ce lieu est notamment connu pour l'endroit de la crucifixion de Jésus, un chemin qui mêle atrocité et souffrance. Sur ce même chemin, Jésus va se rapprocher du cadeau qu'il nous offre, celui de l'espérance, d'une vie sans souffrance, sans douleur. Et alors que j'étais condamné, Jésus a porté ma condamnation, notre condamnation, et il en sort vainqueur. Par la foi, par la confiance que tu lui porteras, toi aussi tu sortiras vainqueur.
Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Oui, c'est là qu'il mourut, sur cet infâme bois, pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère, elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Appuyant avec foi sur la croix de Jésus, sa bannière, je veux la porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrais l'exalter. Oh, oh. Cette croix me sera toujours chère, elle est gloire et victoire pour moi. Et par la offert à ma foi.
Je crois qu'il y a un témoignage que tu aimerais nous partager, alors je te laisse la place.
Merci. Alors le témoignage que je vais partager avec vous est basé sur une histoire personnelle. Pendant mes études il y a quelques temps de cela en Angleterre, Alors je suis partie de la France pour un pays complètement étranger pour moi, pour, en tout cas. Pas de famille ni d'amis sur place, une langue qui sonnait complètement chinoise. Bien qu'en quittant la France, j'étais en train de terminer mon DUG en anglais. Une fois dans le pays, comme si tout ce que j'avais appris ne servait à rien. Donc il fallait réapprendre dès le début comme un vrai début. Étant seule, sans ressources conséquentes, il a fallu trouver un travail de suite pour assurer la continuité des études. Et c'est là que Dieu a montré combien il prenait soin de moi. J'ai trouvé du travail dans la cafétéria du campus. J'ai nettoyé des casseroles géantes dans la cuisine, aussi grandes que moi. Ensuite, j'ai fait le ménage dans la salle à manger une fois que les étudiants étaient partis. Je te laisse imaginer mon exténuation à chaque fin de soirée.
C'est clair.
Mais là encore, je devais passer par un cheminement éprouvant pour que je puisse me rendre compte, au moins voir comment Dieu peut agir pour façonner la personne que je suis aujourd'hui. Après ma première année, je devais rentrer en France pour terminer l'université, mais on m'a fait découvrir une autre voie que je devais suivre. Cette voie, c'était des études dans lesquelles je me retrouvais très bien. C'était des études dans le social. Je remercie encore le ciel de m'avoir ouverte cette voie, car de là, Dieu va me prouver une fois pour toutes combien il tenait à moi. L'autofinancement des études était une vraie leçon de vie pour moi. Pour pouvoir terminer mes 4 années universitaires, je devais travailler sans arrêt. Pendant 3 années successives, mes horaires de travail étaient de 4 heures du matin jusqu'à minuit, littéralement. Mais dans sa grande bonté, Dieu assurait que je travaille en tant que préceptrice de l'internat des filles de 19 heures jusqu'à minuit. Bon, c'est vraiment assurer que tout se passe bien dans l'internat, que les garçons sortent au moment de la fin des visites. Donc, c'était quand même pépère.
Pourquoi les garçons?
Ben oui, on leur a donné le droit de visiter les copines entre certaines heures. Mais à 10 heures, ils devaient quitter les lieux. Je devais m'assurer que, voilà, effectivement, tout le monde était dehors. Et donc, de là, Dieu va prouver qu'il tenait. Alors, j'étudiais pendant ces créneaux de 19 heures à minuit. C'était tous les soirs, comme ça. Si je n'avais pas ce travail-là, je pense que ça n'aurait servi à rien de rester et que travailler. Alors que mes camarades dormaient encore profondément, je sortais pour commencer mon travail en tant que femme de ménage dans un club de golf tous les matins à 4 heures, de 4 heures jusqu'à 6 heures. Ensuite, d'enchaîner avec la préparation des petits déjeuners à la cafétéria jusqu'à 8h30, puis être en cours jusqu'à midi. Retour à la cafétéria pour les déjeuners et nettoyage jusqu'à 14h. Recherche et autres cours les après-midi jusqu'à 16h30, sauf le vendredi après-midi. Et de 17h à peu près 18h45 par là, je nettoyais les bureaux de BMW qui se trouvaient à côté du campus. C'était à 5 minutes de voiture, littéralement, non, c'était chouette. Enfin,
Façon de parler.
Façon de parler, parce que voilà, j'étais assurée d'avoir quand même du travail. Je me demande jusqu'à ce jour comment j'ai pu tenir ce rythme pendant 3 longues années. Humainement parlant, je pense que c'est pas possible.
On se demande.
Ouais, pareil.
Il va sans dire que les études étaient fortement impactées. Ma vie spirituelle et sociale était inexistante. À ce moment-là, pour moi, Dieu m'avait oublié. La fatigue m'empêchait de voir autre chose. Tout était noir. Le tunnel était bien trop long et je n'arrivais pas à voir le bout. J'en suis arrivée à me dire que je me suis peut-être trompée de voie et que ça ne servait à rien de dépenser autant d'énergie pour les études. Et la solitude était à son paroxysme. Je me sentais comme invisible et que j'étais seule dans un combat inégal. Avec de telles difficultés, j'ai trouvé du réconfort dans l'alcool. Et oui. Et une partie de ma vie dont je ne suis pas fière, mais elle est là pour me rappeler que Dieu ne m'abandonnera jamais. Mmh. Je suis tombée dans une dépression telle que la seule issue pour moi a été de mettre un terme à ma vie. Je commençais à penser que finalement, j'étais certainement un accident de la nature. Personne ne pouvait avoir un quelconque intérêt en moi. Encore moins m'aimer. Je me suis dit, ma famille au loin aura de la peine pour un temps, mais elle finira par oublier mon existence. Alors j'ai commencé à planifier mon départ définitif de la planète. Et en tant que préceptrice, j'avais accès à des médicaments. J'en avais moi-même en ma possession, mais je pensais que ce n'était pas assez. Et l'idée était de faire un bon cocktail de médicaments et d'alcool. La réussite de ce projet était certaine et sans appel. Je pensais au moment pour l'exécuter et comment je devais procéder précisément. J'ai choisi un vendredi après-midi pour mettre mon plan à exécution. J'avais de l'alcool dans ma chambre et assez de médicaments. Je préparais soigneusement le tout pour passer à l'acte. Plus rien ne secouait ma pensée. C'était arrêté dans ma tête, c'était à faire le plus vite possible. À ce moment-là, je contemplais ces ingrédients qui n'attendaient plus que d'être ingurgités. Je me souviens que je m'asseyais au bord de mon lit et soudainement j'étais frappée d'une grande faiblesse et je me sentais que j'avais aucun contrôle sur moi. Littéralement, je n'étais plus moi-même. Et je me suis retrouvée, à ce moment-là, à genoux, sans le vouloir. Et c'est tout ce dont je me souviens. À genoux, sans que j'aie pris la décision de m'agenouiller, encore moins de prier. Je ne me souviens pas avoir prié. Je ne me souvenais de plus rien à partir de ce moment-là. Comme si j'avais virtuellement disparu de la planète. Le lendemain, en fin de soirée, donc samedi, vers 19h, mes yeux se sont ouverts. J'ai été allongée sur mon lit. Rappelez-vous, mon dernier souvenir était d'être à genoux et rien d'autre. Mais je me suis réveillée dans une position allongée dans mon lit. Au réveil, j'ai senti une telle fraîcheur, comme si on m'avait guéri d'une très très grave maladie, comme si je sortais en fait d'un coma. J'avais la sensation de légèreté indescriptible, d'avoir l'impression d'avoir dormi profondément pendant des années. À ce moment précis, ce n'était rien de moins, pour moi en tout cas, que le fruit d'un miracle que Dieu a produit. Il m'a dit à ce moment, très clairement, « Je t'aime, Fanta, et jamais je ne te laisserai. Même si parfois tu sens que je t'ignore, sache que j'étais choisie et je n'en ai pas fini avec toi. » Effectivement, il n'en a pas fini avec moi. Et je suis là pour vous raconter combien il est amour.
Amen.
Et 7 minutes ne suffiront pas pour témoigner ce que Dieu a fait pour moi à travers les années. Les répercussions de cette expérience tout au long de mon cheminement sont inquantifiables. Des portes que j'ai pensées ne s'ouvriront jamais à moi se sont ouvertes. Des situations humainement impossibles se sont résolues. J'ai des millions vraiment des raisons pour louer sans relâche ce Dieu-là. Donc voici quel est mon Dieu, un amoureux de la vie, et il fait toutes choses nouvelles. C'est des paroles de chansons que j'aime beaucoup. À la suite de cette expérience, ma relation avec Dieu a pris une telle dimension que je ne pourrais jamais auparavant imaginer.
Donc, merci. Voilà. Amen.
Merci, Fanja, pour cet extraordinaire témoignage qui nous révèle la beauté, l'amour de Dieu. Et c'est vrai que ça tombe assez bien, puisque cette dernière émission, c'est au sujet justement de l'amour de Dieu. Un amour de Dieu qui va être poussé à ses retranchements, à ses limites, Et pour commencer, je voudrais justement vous proposer de lire ce passage de l'Évangile de Jean, chapitre 13, qu'on a déjà bien abordé jusqu'à maintenant. Mais revenons au verset 1, et je vous propose cette lecture. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. La Bible parle d'une histoire d'amour, un amour qui est meurtri, blessé, violenté, mais il y a chez Dieu une persistance à nous aimer. C'est extraordinaire.
C'est vraiment ça.
Ton témoignage nous rappelle cette persistance de Dieu à nous aimer, même lorsque nous n'avons même plus envie de nous aimer nous-mêmes.
À la limite de la compréhension, je trouve.
Ouais. Et comme si Dieu, finalement, ne pouvait pas nous renier, ou comme si Dieu ne pouvait pas se renier, parce qu'il est fondamentalement amour. Et ce Dieu 3 fois 5 que nous présentons, eh bien, je crois que c'est ça l'idée de la sainteté, c'est un amour plein, entier, où il n'y a pas de fissures, de zones d'ombre, et il le manifeste envers chacun de nous. Alors c'est vrai que c'est facile de parler de l'amour de Dieu, mais Dieu va aussi le montrer très concrètement et l'exprimer, il va le vivre cet amour, un amour qui va aller jusqu'au bout justement, pour nous rejoindre là où nous sommes, dans nos désespoirs, dans nos violences, dans nos incompréhensions, dans certaines injustices que l'on peut vivre. Eh bien, cet amour, il va aller jusque-là. Il nous rejoint là où nous sommes. Il nous est dit d'ailleurs que Jésus, à l'heure de la Pâque, donc, a mis le comble à son amour. Alors, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qu'aimer? Et qu'est-ce que mettre le comble à son amour? Le mot grec pour le comble a le sens de complet, de débordant, de total. Comme si mettre le comble à son amour, c'est tout donner, c'est le don total de soi qui va même jusqu'au sacrifice de soi. L'évangile du Christ est donc une histoire passionnée où Dieu semble être prêt à tout donner pour conquérir notre cœur et celui de Fanja et celui de toi, cher auditeur. Alors, au chapitre 3 de l'évangile de Jean, verset 16, il nous partage cette indiscrète confession où Jean nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu le Père et Dieu le Fils a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc, aimer, c'est donner. On l'avait vu dans les émissions précédentes, lorsque Ève fut créée, Adam a donné une côte. C'est-à-dire, il a donné une partie de lui-même pour qu'il apprenne qu'il n'y a pas de création, il n'y a pas d'amour profond sans don de soi à l'autre, sans une partie de soi à l'autre. Et c'est la seule condition pour devenir un. Et pour créer une nouvelle humanité libre, eh bien Jésus va être prêt aussi à tout donner et à se donner totalement. Pas seulement une partie de lui-même, pas seulement une côte, mais sa vie tout entière, pour créer cette nouvelle humanité. Aimer, donc, on voit que c'est se donner, mais c'est aussi finalement se sacrifier par moment. Alors, quelle folie que l'amour, quand même. Imaginez être prêt à donner sa vie pour un autre et de le faire en plus en toutes les libertés et sans contraintes et dans un choix volontaire et assumé parce que Dieu nous aime. Je pense que seulement un père ou une mère peut peut-être comprendre ce que je veux dire. D'être prêt à donner sa vie pour son enfant, pour ses enfants. Là, vraiment, Dieu se révèle comme un père d'amour, comme une mère qui nous a enfantés et qui est prêt à tout pour chacun de nous. Et c'est extraordinaire. Il y a un auteur que j'aime beaucoup, Louis Evely, dans son livre « Chaque jour est une aube », il dit à la page 51, comme ça, tu as la référence, « Dieu doit être quelqu'un de ce genre. Tout peut le blesser, mais rien ne peut l'empêcher d'aimer. »
Ah, c'est beau.
C'est joli. Et justement, rien ne va l'empêcher de nous aimer et il va tout donner sur ce chemin douloureux qui lui sera réservé de la part des hommes, le chemin de la croix et du rejet. Malgré notre rejet, il va nous aimer. Et je trouve cet amour-là beau, cet amour saint. Contrairement peut-être à Dieu, l'homme, chacun de nous, avons nos limites. On pourrait changer la phrase, on disait « tout peut me blesser et tout peut m'empêcher d'aimer hein. ». Cher auditeur, qu'est-ce qui peut t'empêcher d'aimer aujourd'hui dans ton cœur? Y a-t-il des blessures que tu ne peux pas surmonter par tes propres forces? Des colères, sentiments d'injustice qui font qu'elles te dominent et tu n'arrives pas à aimer librement, même son ennemi. Car Jésus avait dit d'aimer même son ennemi. Ça paraît fou. De quel type d'amour parle-t-il? Oui, tu le sais bien qu'il est difficile d'aimer et nous ne savons que très maladroitement aimer, et même ceux que l'on aime. J'ai des enfants, je les aime plus que tout, mais j'ai souvent mal aimé, c'est-à-dire que je n'ai pas su toujours donner le meilleur, alors que mon désir est de donner le meilleur de moi-même. Peut-être qu'on est tout simplement limité, et cet amour est quelque part un peu limité. Alors, le même auteur, lui, Evelyne, d'ajouter à la page 42 du même livre, et il dit, mais vous ne vous êtes pas arrêté d'aimer parce que vous avez rencontré les limites de l'autre, mais vous n'avez rencontré que les limites de votre amour, trop pauvre, trop faible, pour continuer son œuvre de création. C'est un joli texte. Nous n'avons rencontré que les limites, finalement, de notre propre amour, souvent trop pauvre ou trop faible, pour continuer son œuvre de création. Aujourd'hui, en suivant le Christ au jardin de Gethsémané, nous allons tenter de comprendre comment, malgré la trahison, les déceptions, les injustices, Dieu va persévérer dans son amour sans jamais se laisser écraser ni soumettre aux puissances du mal qui cherchaient à remplir son cœur peut-être de haine ou de dégoût pour la race humaine, pour une humanité qui va le rejeter, le mépriser et même le condamner à mort. Comment a-t-il su, au milieu de tant de conflits, de déboires, préserver cette flamme de l'amour pour l'humanité? Le repas pascal se termine. Depuis trois dernières émissions, nous avons cheminé à travers ces moments d'intimité, d'enseignement entre Jésus et ses disciples, avec beaucoup d'intensité. Jésus a lavé les pieds de ses disciples, il a partagé le pain, puis le vin, le sang pour cette nouvelle alliance. Puis, après quelques chants de louanges, Jésus se lève et il sort de la maison. Les disciples suivent direction le jardin de Gethsémané. Alors, je vous propose que nous aussi, nous sortions de la maison et qu'on suive un peu ce groupe, Jésus et ses disciples. Merci. Alors, je te propose de lire l'évangile de Luc au chapitre 22 qui nous raconte cette scène. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Qui de nous, si nous pouvions le faire, chercherait à éviter les épreuves et la souffrance?
On est en train de lever la main dans le studio.
Moi le premier. Et c'est vrai que le Christ avait moyen d'éviter de boire cette coupe qui ici symbolise la tentation à venir, la crucifixion qui l'attendait. Cette coupe ne pouvait cette fois-ci pas être partagée comme la coupe du vin, comme au repas, et il était le seul à devoir la boire. Comme en Égypte, à cette Pâque, Nous sommes à la veille, finalement, d'une grande et puissante libération, mais aussi d'un grand combat entre deux puissances, celle de Dieu, celle du mal. L'enjeu, c'est cette fois-ci non pas la libération du peuple d'Israël, esclave du Pharaon, mais bien la libération de l'humanité tout entière, de tous les hommes sous l'empire du mal. Quel combat, quelle intensité dans ce combat. Et Jésus ne va pas le mener seul, ce combat, comme nous. Lorsque nous pouvons être saisis d'effroi, de peur, de crainte, de sentiments d'angoisse, eh bien Jésus a juste la force de tomber à terre, de se mettre à genoux. Et ton témoignage est beau, parce que finalement il nous rappelle cette expérience de Jésus qui, à bout de force, comme toi, peut-être n'a eu que la force de s'écrouler, de tomber à terre, de se mettre à genoux et d'invoquer Dieu, son Père. Parfois, se mettre à genoux, c'est vraiment accepter de renoncer à lutter par soi-même. Et c'est une sorte d'abdication. Je me mets à genoux, c'est-à-dire, Seigneur, j'abdique devant toi. Je reconnais ton autorité, ta souveraineté dans ma vie. Je, J'ai voulu faire par moi-même, j'ai voulu me battre par moi-même, j'ai voulu tout faire par moi-même, n'est-ce pas, Fanja? Mais je n'y suis pas arrivé. Et Jésus, qui est le Fils de Dieu, mais qui a revêtu, qui s'est habillé de notre humanité, eh bien, lui aussi, il éprouve les mêmes angoisses que nous, la même peur. Et il va lutter comme nous, dans la prière, pour sortir vainqueur de cette souffrance et de cette angoisse qui était tellement forte que le texte nous dit qu'il a même sué des grumeaux de sang. Apparemment, physiologiquement, c'est possible, mais c'est l'expression d'une angoisse extrêmement intense, forte. Et c'est seul avec son Père que Jésus va franchir cette épreuve. Parce que, comme d'habitude, eh bien, malheureusement, les disciples sommeillent. Le peuple de Dieu ne comprend pas l'enjeu, et bien qu'il ait été averti. Et Jésus est à terre, à genoux, pour invoquer le nom de Dieu. Et c'est avec ce Dieu-là, son Père, qu'il va trouver les ressources et la force pour se relever. Ainsi, ce combat de la foi, de l'amour, c'est vraiment au jardin de Gethsémané qu'elle a eu lieu. Souvent, on met en avant la croix, toute la souffrance du Christ, mais si on regarde bien, Jésus lutte vraiment dans la prière au jardin. Et après, une fois qu'il se relève, une fois que Dieu qu'il a accepté la volonté de Dieu, qu'il a accepté d'être l'agneau de Dieu immolé pour le pardon des hommes, pour le pardon des péchés, Jésus se relève avec une force intérieure telle qu'il va suivre son chemin, il va être arrêté, il va être emprisonné, il va être crucifié, et si on regarde bien, il ne va point ouvrir la bouche. Il ne va plus rien dire. Un agneau qu'on emmène à l'abattoir sans lutter, sans se défendre. Ce qui est incroyable, c'est que Jésus a renoncé à se défendre pour nous défendre. Il a renoncé à se sauver pour nous sauver. C'est incroyable. Or, la tentation était grande de vouloir se sauver. On le voit bien, même lors de la croix, il y a 3 tentations. Mais si tu es le Fils de Dieu, descends, montre-nous qui tu es. La tentation de montrer qui je suis.
Avait de quoi montrer en plus.
Et il avait de quoi montrer qui il était vraiment. Mais pourquoi est-ce qu'il reste? Pourquoi il reste sur cette croix? Alors qu'il a le pouvoir de descendre, le pouvoir de se défendre.
Il a une vision bien plus loin.
Bien plus grande. Et c'est nous qui le voit. C'est toi, c'est moi, c'est chaque auditeur qui entend ce message, cette parole du Christ. Et l'autre tentation, mais si ton Père, si Dieu t'aime, pourquoi es-tu sur cette croix? Ça aussi, quelque part, quand on traverse une épreuve, on se dit, mais où est Dieu? Si Dieu m'aime, pourquoi? Mais l'épreuve est grande, cherche à mettre en doute l'amour du Père. Parce que Dieu m'aime, eh bien, je ne devrais pas souffrir. Je ne devrais pas passer par des moments difficiles. Je crois que Dieu le Père n'a jamais promis que nous ne souffrirons pas, mais il a toujours promis de couvrir cette souffrance de son amour et de sa présence. La tentation de s'élever, lorsqu'il dit Dieu descend de cette croix, c'était aussi une tentation de s'élever, de se manifester. Tout cela pour dire que Dieu, malgré tout, a persévéré. Il s'est approché, il a tenu jusqu'au bout, et à la fin, il s'est crié, c'est fini. Le mot utilisé par Jésus en grec est tetelestai, qui c'est le cri d'un général romain qui observait la bataille depuis la colline, et quand il voyait que son armée a gagné définitivement la bataille, il hurlait ce mot pour annoncer à ses troupes qu'elle avait la victoire totale. Et il y avait beaucoup de soldats romains autour de cette croix. L'un d'eux qui entendit Jésus pousser ce cri comprit pourquoi un homme mourant sur une croix pouvait pousser le cri de victoire d'un général romain. C'est pourquoi il a dit « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu ». C'est dans Matthieu 27. Jésus avait gagné la bataille. Il pouvait crier la victoire parce qu'il a accompli sa tâche avec succès grâce à son Père. Jésus a réconcilié l'homme avec Dieu en s'offrant aux hommes, en payant le prix de nos fautes. Et c'est ça tout l'extraordinaire de Dieu, l'extraordinaire de la croix. C'est l'histoire d'un Dieu incompris, mal aimé, rejeté, même méprisé, humilié, crucifié, mais qui malgré tout va nous aimer et va se donner tout entier pour toi et pour moi, cher auditeur. Louis Evely dira « L'amour est gratuit, on ne tient jamais l'autre que de sa liberté. L'amour accepte de n'avoir aucun droit. Jésus a accepté de perdre tous ses droits pour que nous puissions, nous, les retrouver en tant qu'esclaves, libérés par sa grâce. » Que Dieu eh bien, puisse nous aider à comprendre son amour et surtout à l'accueillir dans nos vies. À toi, cher auditeur. Amen.
Amen. Amen.
En mai dernier, Romina nous parlait d'une artiste chrétienne, Neis, une Lyonnaise qui fait du slam. Elle nous avait partagé le titre « Petite fille » tiré de l'album « Pause ». J'aimerais aujourd'hui te partager un autre titre de cet album. C'est un texte qui m'a beaucoup touchée. Il s'appelle « Une journée particulière ». Je trouvais que ce slam clôturait bien toute cette série que nous venons d'avoir autour de la Pâque, autour de Jésus, qui vient sur notre terre, qui nous aime et qui nous sauve. Alors je te laisse écouter.
C'est la fin d'une longue journée. Sur le chemin, je regarde un instant vers le passé, ça fait déjà quelques années. Quelques années que je suis sur cette terre desséchée, j'ai aimé rencontrer toutes ces vies. J'ai aimé traverser tous ces pays, j'ai aimé observer les jours passer, le soleil se coucher puis se lever. J'ai aimé voir la pluie tomber, voir les feuilles s'envoler, j'ai aimé tous ces instants. J'ai aimé chacune des mains que j'ai serrées tendrement, j'ai aimé chaque sourire que j'ai croisé. J'ai aimé marcher avec tous ces petits hommes à mes côtés, j'ai aimé tous ces amis. Aussi incroyable que ça puisse vous paraître, sachez aussi que j'ai aimé mes ennemis. J'ai aimé ceux qui m'ont trahi. J'ai aimé chaque être vivant que j'ai croisé. J'ai aimé cette prostituée, cet handicapé, ces orgueilleux et puis tous ces vieux. J'ai aimé ces petits-enfants. J'ai aimé ces lépreux, même avec ces plaies pleines de sang. J'ai aimé les exclus, ceux que l'on n'aimait plus, tous ces malades abattus, tous ceux qui n'y croyaient plus. J'ai aimé ceux qui m'ont insulté, ceux qui m'ont détesté, ceux qui m'ont aimé, ceux qui m'ont piétiné. Pas d'un amour intéressé, j'ai aimé sans me soucier du prix. J'ai aimé et mon amour me pousse à en perdre ma vie. C'est la fin d'une longue journée. Sur ce chemin, je regarde un instant vers le passé, ça fait déjà quelques années. Quelques années que je suis sur cette terre desséchée, je peux pas empêcher mes larmes de couler. En regardant toute la haine qui sort du cœur de l'humanité, j'ai détesté chacun des mensonges que j'ai entendus. J'ai détesté voir des êtres humains vendus.
J'ai détesté chacune des paroles blessantes qui se sont lancées, parce que je sais tous les ravages que ça fait sur l'identité, parce que je sais qu'ils n'ont pas été créés pour s'entretuer. J'ai détesté les voir seuls se débattre contre la souffrance, j'ai détesté les voir sans espérance, mais j'ai aimé chacun comme il était. Je ne pouvais pas les laisser avec ce désespoir qui les accablait. Je ne pouvais pas les laisser, je les ai aimés, pas d'un amour intéressé. J'ai aimé sans me soucier du prix. J'ai aimé et mon amour me pousse à en perdre ma vie. C'est la fin d'une longue journée. Sur chemin, je regarde un instant vers le passé, ça fait déjà quelques années. Quelques années que je suis sur cette terre desséchée. C'est la fin d'une longue journée. C'est la dernière fois que je foule cette terre desséchée. La colline est devant moi. Il ne me reste que quelques pas, j'ai un lourd bagage sur mon dos. Il est douloureux, mais c'est mon cadeau, alors je continue de le porter. Même si mes larmes doivent couler, même si mes mains doivent être clouées, même si je dois m'humilier, même si mon cœur doit s'arrêter. Je les vois s'agiter, en quête de sens et de vérité, ne trouvant jamais la liberté, emprisonnés par la culpabilité, face à leurs regrets, face à leurs actes manqués, voués à leur sort avec comme seul horizon la mort. C'est la fin d'une longue journée, c'est la dernière fois que je foule cette terre desséchée. La colline est devant moi, il ne me reste que quelques pas, j'ai un lourd bagage sur mon dos. Il est douloureux, mais c'est mon cadeau, alors je continue de le porter, même si mes larmes doivent couler, même si mes mains doivent être clouées, même si je dois m'humilier, même si mon cœur doit s'arrêter. C'est la fin d'une longue journée, mon cœur s'est arrêté. Une nouvelle journée vient de commencer. Mon cœur s'est remis à palpiter, j'ai créé cette nouvelle journée. Plus de mort, mais une vie pour l'éternité, pour ceux qui choisissent de traverser le pont que j'ai créé. Sur ce pont j'ai marqué, sur ce pont j'ai gravé, le mot pardonner. Une nouvelle journée vient de commencer, je ne regarde plus le passé.
Je nous invite à un temps de prière. Parfois, on est impressionné par l'idée de prier, de s'adresser à Dieu, en groupe et parfois même seul. Que lui dire? Comment bien tourner nos phrases? Et c'est bon de vouloir honorer Dieu, de vouloir le respecter dans notre manière de le prier, mais c'est aussi accessible. C'est aussi s'adresser à l'être qui nous aime le plus au monde. Alors avec simplicité, avec humilité, je nous invite à nous adresser à lui. Et à laisser aussi un silence pour nous retrouver dans sa présence et nous mettre à son écoute. Alors je te propose de commencer par un temps de prière personnelle sur une petite musique instrumentale pour t'adresser en face à face à ton Dieu, puis Olivier conclura. Prions.
Merci Seigneur, notre Père qui est aux cieux. Merci aujourd'hui de nous avoir rappelé combien tu nous aimes. Combien cet amour t'a poussé à faire des choses incroyables, Seigneur, pour nous. D'être allé au bout de cet amour, au bout. bout de cet amour passionné pour tes enfants que nous sommes. Merci Seigneur pour ce chemin de vie que tu nous proposes, cette nouvelle journée avec toi, ce nouveau chemin, cette nouvelle aventure pour une vie nouvelle, dans ta paix, dans ta joie et ton espérance. Oui Seigneur, ouvre notre esprit à accueillir cet amour-là, un amour qui seul pourra nous transformer au plus profond de notre être. Car Seigneur, tu es la source de tout être. Tu es le Créateur et le Rédempteur du monde. Et nous voulons te remercier au nom de Jésus-Christ. Amen.
Fanz, il me semble que pour cette action, tu nous proposes quelque chose d'un peu particulier.
Oui, donc je reprends le psaume de la promesse du jour, mm-hmm. et cette fois on va le terminer, mais on va la rendre un petit peu plus personnelle. Donc si vous relisez le chapitre, j'ai changé les pronoms personnels.
Pour donc que psaume ce sera... 91.
Ah oui, voilà. 91.
Ok.
Voilà, donc voilà comment ça se présente. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant.
Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie.
C'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Tu me couvres sous ton plumage, je suis en sécurité sous ton aile. Ta fidélité me protège comme un grand bouclier.
Je n'ai donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi.
Que 1000 tombent à côté de moi et 10 000 à ma droite, moi, je ne serai pas atteint. Il me suffira de regarder mes yeux pour constater la rétribution des méchants.
Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si moi je fais du Très-Haut mon abri, aucun malheur ne m'atteindra. Nulle calamité n'approchera de ma demeure.
Car à tes anges, tu donneras des ordres à mon sujet, pour qu'ils me protègent sur mes chemins. Ils me porteront sur leurs mains, de peur que mon pied ne heurte une pierre.
Je pourrais marcher sur le lion et la vipère, et piétiner le jeune lion et le serpent.
Oui, celui qui t'est attaché, tu le délivreras et tu protégeras celui qui entretient une relation avec toi. Lui, il t'invoquera. Et tu lui répondras.
Tu seras avec lui au jour de la détresse. Tu le délivreras et tu honoreras. Tu le combleras d'une longue vie et lui feras expérimenter ton salut.
Je sens que cette semaine, je vais lire ce psaume tous les matins. Merci Fanza pour ce psaume. Que ces paroles, auditeurs, auditrices, t'accompagnent pleinement dans ton quotidien. Nous arrivons à la fin de ce culte, de ce marathon, je dirais même pour toi, Olivier.
Oui.
Merci de nous avoir accompagnés pendant tout ce mois, d'avoir été présent.
Avec plaisir.
Sois béni pour la suite de ton ministère, toi et ta famille.
Merci beaucoup.
Merci Amandine, Fanz, pour vos partages.
Merci Brian. Merci.
Auditeurs, auditrices, merci d'être restés avec nous. Je te souhaite une belle journée et une belle semaine et je te dis à très vite. Ciao.
Ciao.
À bientôt.
C'était le culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.